France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Actrice, chanteuse, charmeuse et en tout cas charmante, autant de qualificatifs peuvent s'appliquer à mon invitée ce matin, Elena Noguera, artiste complète qui fut longtemps la complice de Philippe Catherine et qu'on retrouve aujourd'hui dans Les Parisiennes, nouvelle version du groupe des années 60. Elena Noguera qui aime la musique brésilienne et les rôles comiques et puis qui chante parfois en duo avec sa sœur Lio sera mon invitée dans quelques instants. Mais avant toute chose, hommage à Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture. Il fut à ses débuts concessionnaire en automobile. J'ai donc choisi pour lui cette petite chanson.
Quand j'ai connu Mimi, j'ai voulu l'épater. Oui, mais pas riche, alors que faire? Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer. Et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant, elles sont au sport, vous devinez alors, avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelques temps, pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles, chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon, mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole, ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors ça c'est de la bagnole, et puis alors on est secoué là-dedans, on est caoté, hein, Mimi. Chaque fois qu'il y a un trou sur la route, on le sent, on voit où ce qu'on passe. Tiens, là le moteur qui s'arrête. Attends, ça y est, c'est une panne, je vois ce que c'est. Oh, c'est rien, heureusement je connais ta marque. Ça y est, c'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors fatalement, tu comprends, ça encrasse les bougies du pont arrière, ça fait remonter la dynamo dans les soupapes, et ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. C'est, hein, qu'est-ce que tu dis, Pépé? Que je suis calé en mécanique? Oh, bah dis, je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre, alors. Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Ça y est, hop, double repartie. Ah, ça, c'est de la bagnole, alors, hein. Qu'est-ce qu'il dit, Toto? Qu'est-ce que tu dis, mon petit gars? Parle plus fort, on n'entend rien avec le bruit de la carrosserie. Hein? Y a un fou qui veut nous doubler. Bon, eh ben, laisse-le faire. Allez, allez, passez, monsieur. Regarde-moi ce fou, dis donc, hein. Il fait au moins du 30 à l'heure. Ah, si, du 30. Regarde mon compteur, quoi. Moi, je fais du 22 et on file à plein gaz. D'ailleurs, si ça continue comme ça, Mimi, on sera à Deauville dans un an. Attention, mes enfants, v'là un virage. De la prudence. Le bras à la portière, tout le monde. Là. Mimi, tu me fous le doigt dans l'œil. Attention, là. Ah, oh, quel virage, hein. Sur l'aile. Allons, bon, ça y est, c'est Toto qui est resté dans le virage avec la banquette arrière. Oh, enfin, ça fait rien, y'a rien de cassé. Eh ben, ma pépé, nous v'là seul. Profitons-en, viens qu'on s'embrasse. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as les pieds qui baignent dans l'huile? Comment? Oh, y'a une fuite à la boîte à vitesse. Mais c'est rien, ma chérie, ça se fait dans toutes les bonnes voitures. T'as qu'à l'éponger avec ta houppette. Alors, Toto, bah, qu'est-ce que t'attends pour regagner le gros du bataillon? Rapplique avec ta banquette arrière, mon petit gars. Oui, c'est un incident. T'as qu'à l'attacher après le pare-brise, là, là, avec un morceau de fil de fer. Ça y est? Bon, Mimi, appuie sur le démarreur. Hop, ça y est, double repartie. Ah, ça c'est de la bagnole alors. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang. Y'a qu'un défaut, les roues dévissent. Pour serrer les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelques fois, mais il en reste trois. Ça me soutient un tas de gens qui n'en ont pas autant. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. C'est le genre torpedo, c'est chouette quand il fait beau. Mais s'il tombe de la flotte, y'a pas de capote. Mimi ouvre son tome pousse grand comme un champignon. Moi l'eau me coule dans le cou et dans mon pantalon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto.
Oui, je sais, c'est plus très à la mode de chanter les plaisirs de la voiture, mais quand même, quand c'est Georgius qui chante avec l'orchestre de Pierre Chagnon en 1938, ça vaut toujours la peine.
Thank you.
L'excellente André Pop et son orchestre dans l'album Musique en tout genre paru chez Fontana en 1956 avec ce morceau qui s'appelait La Bardinette. Il paraît que c'était en hommage à Jean Bardin qui était à l'époque animateur sur France Inter.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Je vois d'ailleurs que le nom d'André Pop fait sourire mon invitée. On va peut-être en parler avec elle tout à l'heure. Mon invitée, en tout cas, eh bien, elle est actrice, elle est chanteuse, elle est auteure de plusieurs livres et elle apporte à tout ce qu'elle fait une forme de légèreté raffinée. Aujourd'hui, eh bien, elle est associée à quelques autres sous la houlette de Laurent Ruquier pour la Renaissance des Parisiennes. Vous savez, le fameux groupe de Claude Bolligne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elena Noguera. Le tour des Parisiennes, c'est en ce moment un peu partout en France et jusqu'au 18 et 19 décembre à l'Olympia. Bonjour Elena Noguera.
Bonjour.
Vous êtes une des nouvelles Parisiennes. Mm-hmm. Et en même temps, pour moi, vous êtes une quintessence de la Parisienne d'une certaine façon.
Ah bon?
Vous,
ah oui.
Votre raffinement, c'est votre élégance. Non, vous ne voyez pas
merci.
Comme une Parisienne?
Non, je me vois comme citoyenne du monde, mais donc Parisienne aussi.
Voilà, Parisienne aussi.
Oui.
Alors, les nouvelles Parisiennes, donc, vous êtes quatre, hein, Maréva Galanteur, Ariel Dombal, Ina Modja et vous-même.
Oui.
Dans ce spectacle qui suit le disque,
oui.
Et qu'est-ce qui vous a conduit dans cette aventure, finalement?
Alors, c'est Laurent Ruquier qui a téléphoné l'été dernier, donc l'été 2017, et qui avait envie de remonter les Parisiennes parce que c'est un groupe qu'il aimait dans son enfance,
ouais.
et qu'il a beaucoup fait rêver. Moi, je les aimais beaucoup aussi.
Vous les connaissiez donc?
Moi, je les connaissais. J'avais fait des reprises avec Monsieur Catherine lorsque je partageais ma vie avec lui.
Ouais.
Nous avions repris des chansons des Parisiennes parce qu'on aimait ce groupe. On aimait d'abord les musiques étaient incroyables parce qu'elles étaient faites par Claude Bolligne.
Claude Bolligne quand même.
Donc c'était très jazz et on le sent pas dans les Parisiennes parce que comme c'est chanté par quatre filles qui crient un peu fort, mm-hmm. il a popisé un peu le jazz, mais c'est des mélodies pas mal intéressantes et assez complexes. Là, on entend bien le swing du banjo. C'était très 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 joli, très swing. Et donc quand Laurent m'a proposé de faire ça et qu'il m'a parlé du casting, j'ai plutôt sauté de joie.
Vous étiez amis avec les unes ou les autres déjà, ou vous connaissiez?
Non.
Vous aviez travaillé ensemble? Non, jamais.
Alors je connaissais Ariel, j'avais déjà convié
Ariel Dombal.
Je l'avais convié à chanter avec moi sur scène lorsque parfois je rends hommage à Serge Rezvani,
oui,
qui est un monsieur qui a écrit Le Tourbillon et La Mémoire qui flanche, ces chansons que Jeanne Moreau a rendues très célèbres. Et donc je connaissais Ariel de là, puis aussi parce qu'elle avait collaboré avec Monsieur Catherine sur un album.
Vous dites toujours Monsieur Catherine?
J'aime bien, je trouve ça chic. J'aime beaucoup, c'est de la tendresse. Et Maréva Galanteur, je la connais depuis qu'elle était Miss France, parce qu'à l'époque, je faisais une petite émission sur M6 où j'interviewais des gens, que je l'avais interviewée à l'époque. Et puis, j'ai beaucoup aimé ses albums. J'ai beaucoup de tendresse pour ce que produit Maréva Galanteur comme chanteuse. Et Ina Modja, je la connaissais pas.
Et le travail à quatre, alors ça s'est passé comment? Autour d'un piano, avec des partitions, etc.
Alors, pas de partition, parce qu'aucune de nous n'est musicienne et ne lit la musique, donc c'est un peu comme des incultes, des ignares.
Ah non, dites pas ça, vous avez fait plein de disques, vous connaissez la musique.
Oui, on la reconnaît.
Vous la lisez pas.
Voilà, je la reconnais, mais je ne la connais pas. C'est-à-dire, je ne suis pas une savante. J'ai une notion, et puis, à force de l'aimer, je sais en parler, je sais la faire, je sais.
Vous aviez un directeur musical, donc, j'imagine,
oui,
dans toute cette aventure.
On était toutes les quatre, et puis on chante à quatre. C'est plutôt charmant.
Et le spectacle par rapport au disque, alors, c'est un vrai spectacle?
Alors, c'est un vrai spectacle. C'est comme un show un peu à la Broadway, c'est pas, je fais comme ça dans l'air, c'est des petits guillemets,
des petits guillemets.
Mes petits doigts. Et donc c'est un show, il y a beaucoup de costumes, des changements, il y a des petites chorégraphies sur chaque morceau, c'est plein de petits tableaux, il y a des danseurs, il y a des musiciens, nous sommes 12 sur scène, il y a 4 danseurs, 4 musiciens, 4 chanteuses, des costumes, en veux-tu, en voilà, des lumières, donc c'est un petit show très pop, très joyeux, très Broadway.
Voilà, c'est le retour donc des Parisiennes avec vous-même, Elena Noguera. Et c'était l'occasion de vous inviter parce que j'aime beaucoup vos chansons.
Moi, j'aime beaucoup votre émission.
Oh, ça, c'est gentil. Et puis, les chansons, c'est une chose, mais il y a aussi le cinéma, les livres, tout ce que vous avez fait. Mm-hmm. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. On va remonter dans le temps d'Elena Noguera.
Okay,
écouter 2-3 choses ensemble
avec
et puis
joie.
En parler.
D'accord.
Semble farouche, louche, l'ombre de nos corps. Seule une vieille lanterne terne éclaire le port. Nous n'avons rien à nous dire, pire, nous sommes d'accord. Il fallait que l'on se quitte, quitte à s'aimer plus fort.
Pierre Barou, la chanson du port, une très belle mélodie, douce, un petit peu brésilienne sur les bords, comme souvent chez Barou. Elena Noguera, c'est un artiste que vous admirez?
Oui, j'adore, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. C'est lui qui ramène la bossa nova aussi dans les années 60, je crois, non? Fin 60?
Oui, avec notamment oui, son amitié avec les grands musiciens brésiliens dont il était venu nous parler ici.
Et donc j'aime particulièrement cette chanson, je trouve qu'elle est très très bien écrite, même au niveau du texte. Et c'était
c'est votre côté brésilien d'ailleurs, délicieux. On en reparlera un petit peu, c'est important pour vous, ces rythmes de là-bas.
Oui.
Mais juste avant, Pierre Barou, ça je ne sais pas si c'est votre enfance, alors Dorothée, la valise.
Oui, Dorothée, oui c'est l'enfance. En fait, j'ai découvert Dorothée très petite, j'avais vu Le Magicien d'Oz, et dans Le Magicien d'Oz, le personnage s'appelle Dorothée. Oui. Et dans le Télémoustique, qui est un magazine de télé belge, j'avais lu Dorothée et ses amis. Donc je pensais que c'était de nouveau le film qui allait passer. Donc je me suis mise devant la télé et j'ai découvert Dorothée, l'animatrice française d'émissions pour enfants.
Vous étiez encore bruxelloise à ce moment-là.
Ouais, voilà. J'étais à Bruxelles et j'ai adoré ce personnage, sa voix, elle était très pop, elle était très cartoon. Et c'est vrai que oui, je fais partie de ces enfants qui ont aimé Dorothée, L'île aux enfants.
Voilà. Mais vos parents, d'ailleurs, ils écoutaient quoi, votre mère? Du fado?
Alors, ma maman, oui, écoutait Amalia Rodriguez, beaucoup Jeanne Moreau.
Oui.
Et mon papa, du jazz. Mon papa était musicologue et spécialiste en jazz et en free jazz. Donc, on a beaucoup.
Du jazz très pointu, donc.
Voilà. On a beaucoup écumé les festivals de free
jazz. Dorothée, c'était assez loin de ça, évidemment.
C'était très punk. Pour mon père, aimer Dorothée, c'était vraiment une grande provocation parce qu'il détestait.
Ouais.
C'était interdit. Et nous, on adorait aimer des choses qui étaient interdites.
Alors, vous êtes venu à Paris et j'ai noté aussi, vous avez cité déjà, je crois, au moins une fois Jeanne Moreau depuis qu'on est là. Ça a été une des choses, avec Michel Legrand, qui vous ont peut-être donné envie aussi d'aller tenter votre chance dans le monde des arts et de la chanson.
Oui, c'est vrai.
Mis à part peut-être l'exemple aussi de votre sœur aînée,
Lio. C'est vrai. Mais d'abord, on était petites toutes les deux, avant qu'elle soit grande et qu'elle devienne chanteuse. Mais quand nous étions petites ensemble, même si elle était plus grande que moi, mais elle était quand même petite, on a 7 ans d'écart. Mais donc, quand nous étions petites, on a beaucoup aimé les Demoiselles de Rochefort et on s'identifiait. Et c'est vrai qu'on dansait beaucoup ces chansons-là.
Vous faisiez ensemble les sœurs jumelles?
Oui,
on faisait ensemble.
J'étais son jouet, ma sœur. J'étais sa réplique dans les deux sens du terme. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là parce que je lui donnais la réplique. Et après, on peut s'amuser avec l'idée de réplique, effectivement, puisqu'après, je suis ses traces. Mais en effet, quand j'ai vu Jeanne Moreau, je me suis dit qu'il y avait possibilité de chanter, de jouer la comédie. Je me suis identifiée à cette femme, oui.
Donc au départ, c'était quand même aussi la comédie, pas seulement la chanson. Parce qu'après, vous avez dit que la chanson était plus importante, finalement, pour vous que le cinéma.
Oui, mais... c'est-à-dire que j'avais choisi d'être une chanteuse, éventuellement jouant la comédie, et non pas être une actrice, c'est-à-dire mon postulat, je visais plutôt à être une chanteuse qui joue la comédie. Et puis ça s'est inversé.
Quand est-ce que vous avez commencé à chanter sérieusement?
J'ai d'abord été choriste de ma sœur, j'ai commencé à être choriste à 15 ans. Donc mes premiers cachets de chanteuse, c'est peut-être à 15 ans.
Voilà. Et alors vous êtes entré assez rapidement finalement à Paris dans un monde de musiciens que je dirais, c'est pas du tout une critique, au contraire, très sophistiqué, très raffiné, très expérimentaux aussi à leur façon. Et voilà, ça a donné déjà quelques beaux disques. On va écouter peut-être dans un instant Olano, le projet Olano, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Mais j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, comment vous êtes arrivé dans ce groupe.
Ce sont eux qui sont venus me chercher. Donc à la base d'Olano, il y avait Xavier Jameau qui après a fait d'autres disques sous le nom Bang Bang. Et il y avait aussi Marc Collin qui lui est maintenant à l'origine de Nouvelle Vague, qui est un producteur et qui a des labels de musique très underground. Et donc en fait, ils sont venus me chercher parce qu'ils ont aimé Lunettes Noires. Donc mon premier 45 tours s'appelait Lunettes Noires, était chez Carrère qui est donc d'un monde révolu, qui était la fin des années Sheila. En fait, c'est le monsieur qui avait découvert Sheila.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc moi, j'ai signé chez lui. Et donc, c'est les garçons d'Olano qui sont venus me chercher. Et donc, j'ai intégré ce groupe qui était un groupe. On était deux filles, deux chanteuses, deux voix. Et on chantait chacune des chansons différentes.
Voilà. Et vous participiez à l'élaboration parce que c'est très sophistiqué.
C'est très sophistiqué. C'est des musiciens. En fait, c'est le début. C'est comme ça que je mets le pied dans une scène musicale très underground qui est donc Catherine, Erle,
Burgala, Tricatel,
De Crécy. C'est tous ces gens, toute cette scène de pop des années 80. Ouais.
Elena Noguera, là c'est en 1996, donc dans Latitude, cette belle chanson du projet Olano. C'est là que vous avez votre façon de chanter aussi, que vous aimez toujours quand vous réécoutez ça.
Ah, j'adore ce morceau, ouais. Je le trouve très joli, j'ai toujours trouvé joli. J'assume tout ce que je fais. Hein.
Oui.
Il n'y a pas de dégoût a posteriori, non.
Et il y a une expression qui vient un petit peu à l'esprit quand on vous écoute, mais je ne sais pas ce que vous pensez de ce terme, la French pop.
Ah,
vous
oui.
savez, ce côté d'une pop, oui. mais à la fois française, par justement une espèce de raffinement, d'élégance, de goût de la couleur sophistiquée.
Ouais, j'accepte.
C'est quelque chose qui vous va, ça?
Ouais, j'accepte. je veux bien être assimilée à la French pop. Oui, je comprends. Il y a quelque chose comme ça qui ne se prend pas au sérieux, qui est un peu timide.
C'est ça aussi, oui.
Et qui
désinvolte.
Oui, qui reste un peu humble. Genre, je ne vais pas chanter trop fort non plus. C'est pas que je ne peux pas, mais je ne vais pas trop vous déranger en même temps.
Et en tout cas, oui, voilà, c'est déjà là dans le projet Olano et dans beaucoup de vos disques. Et puis, il y a autre chose qui est déjà là. Alors, c'est quand même, justement, on parlait du Brésil, c'est une espèce de langueur.
Ouais.
Il paraît qu'on disait de vous, quand vous étiez petite, par opposition à Lio, elle traîne une île avec elle.
Ouais.
Vous traîniez votre île.
Je traînais mon île.
Votre langueur tropicale.
Ouais. C'est ma sœur qui a inventé ça. C'est quand mes parents râlaient un peu sur moi et me rouspétaient parce que j'étais un peu trop nonchalante. Elle me défendait en disant « Mais non, c'est pas qu'elle est nonchalante, c'est qu'elle traîne une île avec elle. »
Voilà, c'est
et
ça.
Je trouvais ça joli. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais je trouve ça joli. Il y a une espèce de poids dans l'eau comme ça qui fait qu'on est obligé d'avancer doucement.
Et puis, ce sont aussi peut-être quand même un peu les racines portugaises qui, d'une certaine façon, vous ont conduit plutôt vers le Brésil parce que la culture portugaise, ça vous attirait pas trop à l'origine, finalement.
Oui, c'est vrai. Moi, je nais en Belgique, mais de parents portugais. Je sens une forme de racisme, déjà, par rapport au fait qu'on soit des Portugais. Et puis, comme je ressemble pas aux Belges, je n'ai pas une identification possible à la culture portugaise qui, souvent, me semble, à l'époque, très, très noire,
très sombre,
très profonde et très sombre. Donc,
à l'image du fado, quoi.
C'est ça. Il y a le fado, il y a une langue rugueuse. Ouais. Le cinéma portugais est très, très intellectuel et très sombre et très noir. Et je ne vois pas d'actrice solaire et lumineuse, ce que je suis malgré mon île, quand même. Et donc, il y avait plus de possibilités de s'identifier soit au Brésil, qui est une musique plus légère et plus joyeuse et plus rebondissante, soit aux Italiennes, aux actrices italiennes. Donc je suis devenue italienne, brésilienne.
Mais au Brésil, il y a aussi la langue portugaise. Donc vous retrouvez votre langue que vous avez pratiquée quand même un peu, j'imagine, la musique brésilienne.
Oui, je parle bien portugais puisque mes deux parents parlent portugais. D'ailleurs, j'ai fait un album qui s'appelle Azul en 2001 avec Monsieur Catherine, d'ailleurs, à la composition et moi aux paroles, et qui est en brésilien, qui sont des chansons originales, mais d'une bossa nova qu'on a créée, nous, par amusement.
Mais alors, vous voulez bien quand même qu'on retrouve Jean Gilberto?
Ah oui, j'adore.
Oui, on peut l'écouter aussi.
Ah oui.
Dans la version d'origine,
mais
1959.
Carrément. Ah oui, c'est le meilleur.
C'est quand même le meilleur, je suis d'accord avec vous.
Va, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões
de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio.
Chega de saudade. J'ai bien dit, Helena Nogueira, ça veut dire quoi
bien.
D'ailleurs?
Ah, ça suffit la mélancolie.
Ah voilà, ouais, justement. Ouais. Vous aimez le Brésil, vous le fréquentez, vous connaissez les musiciens brésiliens, mis à part ceux de la génération de Gilberto?
Non, je ne connais pas personnellement. Je suis allée très peu de fois, je suis allée chanter avec Nouvelle Vague en tournée, parce que Nouvelle Vague marche énormément à l'étranger. Je suis allée enregistrer des choses, mais je connais très peu le Brésil, et je ne connais pas des musiciens non plus brésiliens, non.
En tout cas, voilà, cette influence, elle a été très importante chez vous. Philippe Catherine a contribué à votre amour et découverte de la musique brésilienne, ou ça avait déjà commencé tout seul ?
Non, on était, oui, on était.
C'était en parallèle.
Oui, on était très raccord là-dessus. Je pense que lui, il était très content de pouvoir tomber sur quelqu'un qui maîtrisait la langue pour pouvoir écrire des bossas, justement. Parce que lui, ses premiers disques étaient très inspirés par la bossa, ses premiers albums, il aimait vraiment ça. Par contre, oui, c'est lui qui m'a dit, mais puisque tu parles portugais, puisque tu sais écrire en portugais, voilà, pourquoi ne ferions-nous pas un disque de chansons brésiliennes? Oui.
Faut dire, comme vous dites, il vous est tombé dessus alors qu'il était simplement musicien dans un de vos albums à l'origine.
Philippe, non, je lui ai demandé, sur mon premier album, enfin, demandé deux chansons.
Voilà,
oui,
c'est ça.
De composer deux chansons avec moi.
Et donc, vous n'étiez pas encore ensemble.
Non, voilà. Non. Nous nous sommes d'abord fréquentés comme des amis. C'est la musique qui nous a réunis.
C'est la musique qui nous a
rapprochés. Oui.
Voilà.
Oui.
Il a eu de l'influence, donc, après, sur l'évolution de votre style, de votre façon de faire de la chanson.
Oui, et vice-versa. De toute façon, quand vous passez 10 ans avec une personne, c'est une forme de stage. Il y a, ça dégouline et ça déborde. Donc, je suis devenue lui, il est devenu moi, et puis on est retombé dans nos pots. Mais oui, évidemment, quand vous traversez comme ça, en plus, c'est des dizaines. Bon, je crois que toutes les dizaines sont importantes, mais. Passer de 30 à 40 ans, c'est un cap.
Ouais.
Que dis-je, un rock.
Et à l'époque, il était aussi beaucoup moins célèbre qu'aujourd'hui, malgré tout, même s'il était déjà un artiste
très
repéré.
Oui. Oui, il était très aimé, très supporté par l'intelligentsia, comme on dit. Je fais toujours des guillemets avec mes petits doigts. Les Un Rock, toutes ces presses, les Libé, Télérama et consorts. Il était très aimé d'eux. Et effectivement, il a rencontré le succès populaire et commercial, je crois, en 2007-2008 avec Robot Après Tout.
Voilà. Et donc, Catherine, c'est évidemment quelque chose d'important. Et puis aussi, un label par lequel vous êtes passé, qui a marqué beaucoup plein d'artistes de cette génération, c'est Tricatel et Bertrand Burgala.
Bien sûr, Bertrand, très important. Bertrand, magnifique. J'avais signé mon premier album chez Warner et puis j'avais demandé à le rencontrer parce que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Donc je suis allée boire un café avec lui et il m'avait dit « Écoutez mademoiselle, j'espère que votre disque ne marchera pas chez Warner, ainsi vous pourrez venir signer chez moi ». Et c'est ce qui s'est passé.
C'était agréable.
Warner m'a remercié quelques années après. Et donc, j'ai tapé à la porte de Tricatel en disant, voilà, monsieur, j'ai essuyé un échec chez Warner. Est-ce que vous voulez bien me signer? Et j'ai traversé deux albums chez Tricatel avec monsieur Burgala, que j'appelle toujours patron.
Ce sont peut-être un peu aussi ces gens, ces passionnés de couleurs, de studios, d'arrangements qui font que vous-même, quand on vous pose la question, sauf erreur de ma part, vous dites oh, « je préfère le studio, l'enregistrement à la scène ».
Oui, mais en fait j'ai déjà changé d'avis.
Ah, voilà.
J'ai changé d'avis. Mais j'aime les deux, j'aime beaucoup la scène. En fait, je pense que peut-être je disais ça aussi parce qu'il y avait beaucoup de peur et que la scène, c'est un monde qu'il faut apprivoiser et que finalement, avec l'expérience et les années qui passent, j'ai apprivoisé, je m'y sens très à l'aise et tout à fait chez moi maintenant. Mais c'est vrai que dans la prime jeunesse, quand j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui, eh bien, j'avais peur de la scène et j'aimais bien la création. Mais c'est vrai que la création, c'est un moment très particulier parce que chacun amène sa pierre à l'édifice.
Exactement.
Et il y a une écoute et il y a...
Mais qu'on retrouve, et on se retrouve derrière la console et on travaille et on fabrique et on invente, oui.
Ouais, c'est très beau, c'est vraiment très joyeux, j'aime beaucoup ça, ouais.
Alors on va écouter un... Moi j'aime beaucoup cet album qui s'appelle Né dans la nature.
Ah.
C'est en 2004 avec Philippe Catherine. Aussi. On disait plutôt Catherine à l'époque, d'ailleurs, j'ai remarqué en recherchant des
documents. Oui, Philippe
s'est
venu après.
Philippe s'est venu
au
après.
Au début, on l'appelait Catherine. Et moi, quand je disais que j'étais avec Catherine, il disait « Ah, c'est marrant, il s'appelle comme une femme ». Et tout ça est tout à fait devenu normal depuis. C'est très rigolo.
Alors, il y avait plusieurs chansons que j'aimais beaucoup dans cet album. Il y en a une qui est assez cruelle, d'ailleurs, qui s'appelle « L'âge de ma mère ». C'est terrible, ça.
Terrible. Les paroles sont de moi, parce que je disais souvent ça. Je disais, mais est-ce que tu m'aimeras toujours?
Toujours quand j'aurai l'âge de ma mère. Mais et oui. Vous faites une description un peu pathétique, oui. Si on veut, d'une femme vraiment qui vieillit.
Et d'un homme, parce que je parle de lui.
Et de l'homme aussi.
T'auras plus de cheveux, t'auras un gros ventre. Je distribue bien les rôles. Hein. Je suis très équitable sur l'égalité hommes et femmes.
Hein. C'est drôle, c'est cynique, on peut dire.
C'est cynique, mais c'est la réalité. Les couples, souvent, se détruisent au moment de vieillir. C'est-à-dire, ça tient le choc parce qu'il y a les enfants. Quand les enfants s'en vont, le tête-à-tête est terrifiant. Et souvent, ça périclite par là. Parce que affronter la vieillesse ou la jeunesse mourante, vieillir, c'est pas pour les mauviettes. Donc, oui, c'est moins beau. C'est moins beau que la jeunesse.
Mais... En tout cas, la chanson est très réussie. On y sent aussi quand même votre humour, même si c'est de l'humour noir.
Merci.
Et puis, il y a aussi dans le genre « Je t'aime, salaud ».
Oui, ça c'est une déclaration d'amour à monsieur,
Catherine.
À quelqu'un. Oui, enfin bon, en l'occurrence là.
Laquelle on écoute alors ?
Difficile de cacher. L'âge de ma mère, parce que c'est plus surprenant.
Est-ce que tu m'aimeras toujours quand j'aurai les yeux plus lourds, quand mes seins seront par terre, quand j'aurai l'âge de ma mère, est-ce qu'on s'aimera toujours? Est-ce que tu diras quand j'aurai le cancer et que je manquerai d'air, est-ce que tu m'aimeras encore? Est-ce que tu m'aimeras jusqu'à la mort?
Délicieusement cruel et désinvolte à la fois, Elena Noguera. C'est de votre album, donc, Né dans la nature, dont vous avez fait d'ailleurs aussi la pochette, hein, je précise.
Oui, j'avais dessiné le décor parce que le décor ne me plaisait pas, donc j'avais refait un jardin d'Éden à mon goût.
Voilà. Et c'est vraiment un album, moi, qui me plaît particulièrement, même s'ils me plaisent tous.
C'est gentil.
Oui, parce vraiment.
Qu'il est un peu plus... Enfin, non pas que tous mes albums soient très connus, je sais pas non plus Charles Aznavour devant vous, mais disons que dans le peu qu'on connaît, celui-là est moins connu.
Avec Philippe Catherine, par exemple, vous passez beaucoup de temps aussi à écouter de la musique, parce que vous êtes...
Ouais.
C'est un passionné de toutes les choses bizarres, curieuses, intéressantes. Vous aussi, j'imagine, et vous échangiez beaucoup sur ce sujet.
Oui, on a beaucoup écouté de musique et c'est vrai que par rapport, comme vous demandiez, les choses qui peuvent amener, c'est-à-dire quand vous rencontrez une personne, qu'est-ce qu'elle vous amène et qu'est-ce qu'elle ouvre comme porte. Et à travers lui, j'ai découvert un goût pour les choses dites ratées, c'est-à-dire les choses maladroites, les Daniel Johnston qui peuvent faire des chansons très maladroites, chanter faux, les choses qui sont moins savantes que prévues, donc plus punk, cette espèce d'enfance de l'art. Et ça, c'est vrai que cette liberté-là, c'est lui qui me l'a amené. Et maintenant, c'est en moi. C'est
vous avez dû aimer alors le film sur Florence Foster Jenkins, la chanteuse, oui, la cantatrice qui chantait faux.
Il la connaissait.
Il vous la faisait écouter à l'époque. Voilà,
donc,
c'est ça.
Il y a un autre groupe aussi comme ça, de trois jeunes filles qui font un disque payé par leur père et qui jouent pas du tout d'un instrument, mais qui font des chansons.
C'est ça.
Et voilà, c'est lui effectivement qui m'a fait découvrir toutes ces choses un peu qui sont faites avec passion, sans grande science.
Et le Portsmouth Symphony Orchestra de Brian Eno qui reprend les classiques avec des musiciens qui savent pas jouer.
Voilà,
en tout cas, on peut dire les années Catherine, mais aussi, je disais, la French pop, cette couleur qui vous a rapproché d'autres musiciens, Elena Noguera, je pense par exemple, je le regrette beaucoup, il nous a quitté, à Jacques No, avec qui vous avez enregistré un duo en 2002.
Oui, c'est vrai, il y a vraiment eu comme ça une famille qui s'est créée, une famille amicale, musicale surtout, parce qu'après on n'était pas... Oh si, remarque, avec Jacques No, j'allais manger du boudin.
On avait notre petit rituel. Liens, quoi.
Oui, on avait notre rituel. Oui, c'est vrai.
Et
c'est...
Alain Chamfort.
Alain Chamfort, oui, avec qui j'ai fait beaucoup de concerts aussi. Après, un peu plus tard, il y a eu Christophe.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'on se retrouve et puis il y a une espèce de filiation, je sais pas pourquoi, où je dois rappeler quelque chose à ces gens. Il y avait aussi, on parlait tout à l'heure hors antenne, d'André Pop. J'avais chanté, il m'avait invité à chanter un hommage à lui.
Ah oui, il vous avait invité lui-même.
Oui,
ah
j'avais chanté Manchester et Liverpool. Enfin non, c'est une femme de la SACEM, Alexandra Norambuena, qui m'avait présenté André Pop, etc. Mais il y a effectivement, je dois rappeler quelque chose de familier peut-être.
Du temps où la variété française avait une couleur et un style en tout cas.
Et ça reste, là je viens d'enregistrer un nouveau disque, hier on était en train de mixer, et les gars avec qui j'étais au mix, je voulais des effets sur ma voix, et ils me disaient, mais c'est tellement 60s, et je disais, mais je suis 60s, je n'y peux rien, le temps passe et je vieillis, mais je reste ancrée, je reste très amoureuse de ces années-là, qui ne sont pas les miennes, moi je nais déjà plus tard, mais je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue.
Alors dans ce genre-là aussi, cette espèce de sophistication décalée, il y a un groupe que j'ai un peu redécouvert grâce à vous, parce que j'ai vu que vous l'aimiez beaucoup, sont les Japonais de Pizzicato 5. Dites-nous en quelques mots, parce que vous les avez croisés.
Oui, Pizzicato 5, j'ai travaillé avec eux, je leur ai demandé... En fait, je suis une fille qui a, à défaut de talent, beaucoup de culot. Et je crois toujours les rêves...
Pourquoi vous abaissez toujours un peu? Je fais des petites choses, j'ai pas beaucoup de talent.
Parce que c'est vrai, je crois.
Moi,
je crois que c'est vrai. Je pense que c'est vrai et c'est pas pour me faire plaindre mais j'aime bien, je pense être une fille assez concrète et je pense que c'est assez concret, mais ça n'enlève pas, avoir du culot c'est un talent aussi.
Oui, c'est vrai.
Donc j'ai ce culot là, donc effectivement Pizzicato 5, j'en étais folle. Pizzicato 5 c'est un groupe très pop japonais qui cartonnait jusque dans les années 2000 au Japon. Je pense qu'ils ont vraiment été les rois des charts pendant une quinzaine d'années, qui avaient une imagerie très sophistiquée, très 60s, des costumes, tout ce dont on rêvait, nous, à l'époque, quand on débutait, qu'on avait 26, 27 ans. Eux, ils étaient déjà en place depuis un moment. Et donc, je les ai approchés. Effectivement, ils ont remixé un de mes titres sur un album qui s'appelle Projet Bikini.
Et vous connaissez Twiggy
? Ah oui. Je le connaissais en phonétique.
Ah oui.
Twiggy no mini scat day.
Twiggy のミニスカートで Twiggy みたいな Merci.
Twiggy, 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 un choix de mon invité Elena Noguera. Et vraiment, voilà, la musique japonaise, là, c'est en 1994. Et 1994, eh bien, c'est une époque où vous êtes déjà dans la chanson, mais pas encore dans le cinéma. Ça va venir après, de façon assez régulière. Même si vous avez dit, je vous voyais dans une interview, d'abord que vous aviez toujours joué avec des petits rôles.
Oui.
Quasiment.
Quasiment.
Oui.
Ouais. Sauf à la télé. La télé m'offre des rôles principaux.
Oui, mais alors vous allez encore dire que vous, peut-être vous, je sais pas, vous n'avez pas de talent, mais moi je trouve que vous êtes une comédienne, vous avez un tempérament comique extraordinaire.
Ah,
ça vous
d'accord.
gêne ?
Non,
vous
là
considérez
je suis d'accord.
ça comme une insulte ?
Non, là je suis d'accord.
Vous préféreriez qu'on vous dise un tempérament tragique ?
Non, là je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord et je suis très 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 heureuse parce que vous savez que j'ai renoncé à ma carrière de clown à 10 ans. C'était mon rêve. En fait, je voulais devenir clown.
Ah oui.
Quand j'étais une petite fille, vous savez, les petites filles, quand il y a les dîners avec les copains, les parents qui invitent les copains, parfois elles se déguisent en princesse et elles font des petits... Eh bien, moi, je me déguisais en Groucho Marx.
Et, ah oui, bah voilà. Oui.
Et je faisais rire la galerie. Et je voulais être clown, mais pour être clown, il fallait venir à Paris ou aller en Russie et être dans un internat. Et j'étais très attachée à ma mère, donc j'ai renoncé à ma carrière de clown à ce moment-là. Donc oui, quand quelqu'un me dit que je fais rire et que...
Mais vraiment, hein. Moi, je recommande par exemple, dans L'Arnaqueur de Pascal Chaumet, vous jouez un rôle de nymphomane, mais complètement siphonné et très très drôle.
Très drôle.
Donc les réalisateurs savent qu'il faut vous proposer aussi des choses comme ça.
Pas forcément, hein. mais en tout cas, quand ils osent, ils sont contents. Ils en ont pour leur argent, comme on dit.
Voilà. Ouais. Et on pourrait citer aussi La Clinique de l'Amour, 2012.
Oui. Qui est pareil, il y a une comédie très absurde où je suis plutôt pas mal comique.
Voilà,
en fait,
voilà.
Je suis comique.
Vous êtes comique.
Voilà.
On insiste. Enfin, vous êtes comique au cinéma parce que dans vos romans, c'est pas le registre dominant, par contre.
Non, hein? Dans les romans, je suis pas comique, mais
vous êtes tendre. Enfin, vous pouvez être drôle, mais c'est pas la ligne, le fil conducteur.
Ni en musique. non, mon tempérament comique s'exprime soit dans des rôles, soit dans la vie. Si vous me connaissez, vous sauriez que je suis plutôt une comique. Et sur scène, par contre, si vous voyez les Parisiennes, je suis un peu la comique du groupe.
La comique du groupe.
Oui.
Et plus qu'Ariel Dombal.
Oui.
Bon.
Enfin. C'est un autre style.
Un autre style. Alors, dans les films récents, il faut citer aussi, parce que c'est cette année, Place Publique d'Agnès Jaoui.
Oui.
C'était une jolie aventure.
Très, très jolie. En fait, avec Agnès, on a tourné ensemble. On a fait un très beau disque et une très belle tournée autour de la bossa, justement.
Voilà,
qui
vous
s'appelait
êtes rapprochés
Rio Paris.
Par l'amour de la musique, on peut dire.
C'est ça. Et on était avec Nathalie Dessay, Agnès Jaoui et Liat Cohen, qui est une guitariste de classique, normalement.
Uh-huh.
Et on a fait un album de bossa nova. Et ça m'a rapproché d'Agnès, on a mêlé nos voix. Et quand elle a fait son film, donc elle a écrit ce rôle dans Place Publique, qui est petit, mais qui est très touchant, qui est très joli. Et je l'en remercie, j'ai beaucoup aimé et le film et travailler avec Monsieur Bacri.
Et puis, alors, parmi vos disques un peu plus récents que ceux qu'on a déjà entendus, on avance dans le temps et on s'arrête donc à Serge Rezvani, que j'avais eu la joie de recevoir ici, je crois, il y a un an ou deux, dont on sait les merveilleuses chansons qu'il a écrites et que vous avez eu envie de reprendre.
Oui, mais c'était un hasard étonnant. En fait, Serge Rezvani était un peu mon idole. J'avais lu Le Testament amoureux et j'avais adoré son disque. Il a enregistré un disque tout seul à la guitare.
Avec ses propres chansons. Oui.
Voilà, où il est très très libre et c'est complètement foutraque, assez punk. Et donc j'écrivais des lettres et il me répondait gentiment.
Bien pour vous, c'est punk en fait, quand vous lire, c'est plutôt bien, c'est un
oui,
vrai,
hein. C'est que c'est très libre.
Oui, oui.
Il y a une grande liberté, il y a une grande facilité à faire un peu comme on veut. Et lui, il est vraiment l'exemple même de ça. Et voilà, j'ai été invitée à lui rendre un hommage, j'ai chanté des chansons pour lui et il est venu me voir et c'est lui qui m'a dit, c'est même sa femme Marie-Josée Natt, qui m'a dit « Mais mon chéri, il faut absolument enregistrer ces morceaux pour les gens d'aujourd'hui ». Et c'était pas prévu, mais comme c'était la rencontre avec quelqu'un qui était très important dans ma vie fantasmagorique, parce que je ne le connaissais pas, je me suis dit « La vie te fait un cadeau, là, monsieur Serge Rezvani est devant toi ». Donc je lui ai dit « Oui ».
Voilà, alors il y a d'ailleurs un certain nombre de duos dans le disque, dont Rezvani lui-même, mais aussi des artistes invités, des amis j'imagine, comme Vincent Delerme ou d'autres.
Oui, oui. Vincent Delerme est venu chanter, il y a Marie-France aussi qui est venue chanter sur ce disque, et puis Serge également.
Et une instrumentation assez, assez sophistiquée, hein. Il y a un bel orchestre derrière.
Oui, on a fait ça avec Sébastien Martel, qui est un arrangeur de qualité. Et donc, il a bien réarrangé. C'était difficile, c'était un challenge. Quand j'ai fait les premières maquettes, j'ai désisté. J'ai dit, mais non, je ne vais pas les refaire. Le disque de Jeanne Moreau, fait par Canetti, est tellement beau. Mmh. C'était tellement bien arrangé, avec un big band de jazz. Mmh. Pourquoi se frotter à ça? Pourquoi faire? Et finalement, Serge a insisté. Et puis, on a creusé avec Sébastien, Seb Martel. Et on a trouvé ces arrangements qui sont assez différents de ce qui a été enregistré auparavant.
Eh ben, on pourrait en écouter une drôle, justement.
Ah oui?
C'est la Bécasse.
Oui.
Oui, hein,
oui,
avec Philippe Catherine,
avec
justement, Catherine, qui était invité dans le disque.
C'est vrai.
Tra-la-la, la-la, de bon matin. Tra-la-la-la-la-la-la, à la Bécasse. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Tra-la-la-la-la, de bon matin. Tra-la-la-la-la. Des phrases des bois, tra la 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 la.
Tra la 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 la, quand Angela, tra la 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 la, serait-ce une femme? Tra la 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 la, tra la 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 la.
Tra la 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 la, encore une fraise. Tra la 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 la, une fraise des bois. Tra la 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 la, tra la 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 la.
Tra la 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 la, jeune donzelle. Tra la 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 la, oh les fraises des bois. Tra la 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 la, tra la 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 la.
Non 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 non.
Si 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 si.
Non 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 non.
Si 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 si.
Non 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 non.
Si 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 si.
Non 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 non. Oui.
Philippe Catherine, Elena Noguera dans Fraise Vanille, hein, c'est, oui, c'est le nom de cet album,
oui,
hommage à Fraise Vanille, oui, enfin un hommage bien vivant.
Bah oui.
Et il est toujours là et peut-être qu'il nous écoute et on lui redit toute
on
l'admiration qu'on,
oui,
a pour lui. On a en tout cas aussi le sentiment, Elena Noguera, bah voilà, j'ai évoqué le cinéma. Et puis les romans, vous avez publié votre premier roman en 2002,
mm-hmm,
et puis vous avez fait beaucoup de télévision. Mm-hmm. Vous êtes quelqu'un qui a envie de vous essayer à toutes sortes d'expressions artistiques?
Oui, mais en même temps, vous savez, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est comme des griots et qu'on est des témoins d'une époque. Et puis après, les supports sont différents,
mm-hmm,
mais finalement... C'est pas comme si d'un seul coup j'étais chauffeur automobile et puis,
ah oui,
pâtissier ou et cosmonaute. Ça reste la même chose. Je raconte des histoires. Parfois je suis la matière première, parfois c'est moi qui sculpte la matière, mais finalement c'est toujours la même chose.
Vous avez quand même dit, par exemple, mon rapport au cinéma, c'est un rapport d'infidélité à la chanson. Donc c'est vraiment en plus.
Oui, je pense que si j'avais vendu des camions et des camions de disques, peut-être que je n'aurais pas été comédienne. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'arranger. Et puis nous sommes des êtres de chair et il faut quand même réussir à s'en sortir. Donc c'est du travail. Je suis une travailleuse et voilà ce que je sais faire.
Vous avez publié aussi l'an dernier, je crois, un mm-hmm, très joli roman, Ciao Amore, dans lequel j'ai remarqué cette phrase, drôle et désespérée, heureuse et pessimiste, froide et passionnée.
Ça, c'est Cléophée.
Ouais.
Ouais.
Ça vous résumerait?
Oh là là.
Cette espèce d'ambiguïté, de balancement entre des choses.
Oui, mais je pense qu'on a, ouais, on est tous très paradoxaux. Ouais. Donc oui, peut-être que j'ai des paradoxes. Mais je ne sais pas si c'est tout à fait moi, en tout cas. C'est...
Enfin, vous êtes assez présente dans le personnage, j'imagine.
Vous trouvez?
Dans vos personnages? Non, je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas.
Ah oui. Oui et non, sans doute, sans doute. Après, il est peut-être difficile d'inventer tout à fait. Mais je ne vois pas la frontière, en fait. Je ne peux pas la définir.
Vous écrivez le matin ou le soir, ou quand vous avez tout votre temps pour écrire pendant des jours et des jours et
oui,
des jours?
Oui, oui, c'est une discipline, c'est vraiment des temps. Il faut au moins un mois déjà pour commencer. Et c'est, oui, de 6h du matin à midi et de 14h à 18h.
Ah, voilà.
Et c'est toute la journée.
Comme un
c'est
vrai travailleur.
Temps. Ouais, j'adore. Toute seule. Ouais.
On va écouter un extrait d'un autre disque. Alors là, on remonte un petit peu en 2006, c'est Dillinger Girl et Babyface Nelson. Mm-hmm. C'est un disque donc sous pseudonyme.
Oui, en fait, j'ai rencontré Federico Pellegrini, qui est un des Little Rabbits, qui est un groupe nantais, un groupe de rock nantais. Je voulais faire un disque à la cowboy, un peu country, et il m'a envoyé une vingtaine de chansons. Et quand j'ai écouté les chansons, j'ai trouvé que c'était tellement beau, lui qui chante avec sa guitare, que je lui ai demandé si je pouvais juste glisser ma voix dans ce qu'il y avait déjà. Et donc nous sommes partis à Tucson, enregistrés tous les deux. Et donc on a trouvé ce nom de groupe, on est devenu un groupe à part entière pour un disque.
Voilà, vous êtes Dillinger Girl donc.
Voilà, voilà, et lui il est Babyface Nelson parce qu'on dormait dans un hôtel où ils ont été arrêtés tous les deux. Le Congress Hotel à Tucson.
Voilà, qui est sur la pochette du disque.
Oui, oui, oui.
Et c'est dans ce disque que vous chantez Smile. Je crois que vous l'aimez bien, cette chanson.
J'aime bien Smile parce que c'est le début d'une voix. En fait, cet album m'a libérée vocalement.
Oui.
Vous avez entendu les extraits que vous mettez. C'est toujours très doux et c'est comme ça. C'est un peu... Et là, d'un seul coup, avec Federico, comme on déconne, et qu'il me laissait très, très libre et que je trouvais cette liberté aussi, eh bien, j'ai une voix nouvelle dans Smile.
We smile, we don't know what for, but we smile. We breathe, we don't know how come, but we breathe. We love, we don't know who to love, so we change. We keep going, 'cause we don't know where it all started. Whatever happens, we don't care where it starts. Whatever happens, we don't care how it ends. We know it was, so let's pretend we feel strong. We know it was, so let's pretend we're not that wrong. We fight, we fight. We don't know what for, but we fight. We kiss, 'cause if we don't, we suddenly feel alone. One day we'll pay for all the faces we made. One day we'll pay for all the bullshit we planned. We'll pay for something that no money can buy. It'll give no time for any real goodbye.
Smile par Elena Noguera, alias donc
Dillinger Girl.
Voilà, avec
Babyface Nelson,
alias
Federico Pellegrini.
Federico Pellegrini. Donc voilà, vous chantez évidemment, là ça a un sens particulier pour ce projet que vous nous avez expliqué en anglais, mais d'une façon générale, c'est quoi, vous qui êtes née portugaise, devenue belge puis française, du fait pour un chanteur français de chanter en anglais, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui?
C'est vrai que ça se fait beaucoup, mais j'ai pas d'avis. Parfois j'aime bien, parfois j'aime pas. Parfois je trouve ça grotesque parce qu'on a des gros accents moches. Et puis parfois je trouve que c'est bien et qu'il faut pas se censurer.
Ouais.
Moi j'aime bien.
Vous l'avez fait d'ailleurs, mais à petite dose, on peut dire, dans un certain nombre de disques.
Moi je chante en anglais, en espagnol, en portugais, en italien.
C'est votre côté citoyenne du monde.
Je suis citoyenne du monde, je parle 5 langues et je les visite. Et puis ça aussi, c'est des musicalités très différentes. Donc après, bien sûr, il y a les accents, mais ce n'est pas qu'une question d'accent. C'est-à-dire que chaque langue a ses accents toniques, sa musicalité.
Bien sûr. Elle entraîne une musique différente.
On chante pas la même chose, c'est pas les mêmes swings selon les mots, c'est du son, quoi.
Et justement, les Français ont fini par croire que leur langue n'était pas musicale, contrairement à l'anglais, alors que vous l'avez bien montré avec tous vos copains de la French Pop, il y a une façon de faire chanter le français.
Oui, oui, c'est voilà. Tout à fait très, très musical. Mais c'est plus savant. C'est vrai que les chansons françaises, on cherche à avoir plus de sens en français.
Exactement. Plus de textes.
Oui, plus peut-être. De textes. Mais c'est des cultures différentes.
Une autre chose qui m'a frappé, Elena Noguera, même si vous nous avez dit que la chanson, c'était le point de départ, l'essentiel, le fil conducteur, finalement, vous n'avez pas, contrairement à d'autres artistes, multiplié les albums. Ça y est, chaque année, j'enregistre un disque, ouais. etc. C'est plutôt étalé et assez différencié d'un disque à l'autre, d'ailleurs, ouais. Dans le temps.
Ouais.
D'ailleurs, le dernier remonte déjà maintenant à 5 ans.
Ouais. Ouais. Alors ça, c'est le temps n'est pas que de mon fait. Si je pouvais, j'en ferais un tous les ans. Vous savez, dans toute vie, il y a une donnée économique.
Ouais.
Tout est économique. Et donc, de toute façon, la manière dont je distribue mon temps, elle est liée à mon économie personnelle. Et donc ça, et après, le visage différent de chaque album... Mmh. Ça, c'est parce que, effectivement, comme je suis pas compositrice moi-même, quand un musicien compose lui-même, on le retrouve toujours. Mais moi, je peux m'adresser à qui je veux pour faire des chansons. Donc, finalement, ça ouvre toutes les possibilités.
À chaque fois, une rencontre, ouais. Oui, qui crée quelque chose de
oui,
très nouveau.
Oui, en fait, c'est dans mes textes que vous reconnaissez que je suis là.
Oui.
C'est-à-dire, si c'est divers en musique, c'est parce que je m'adresse à divers compositeur, et en fait,
le fil rouge,
on le retrouve dans mon texte, puisque mon champ lexical et mes préoccupations sont toujours les mêmes, et ça n'est que moi qui écris, donc finalement, ça c'est pas très excitant à la longue.
L'idée de ce dernier album que vous venez d'évoquer, c'était en 2013, donc Année Zéro, ça veut dire c'est un point de départ?
Oui, c'est ça. J'avais l'impression d'être à un renouveau. Et puis, vous savez, j'ai un petit goût de la provocation. C'est-à-dire que j'ai anticipé le fait que l'album de la quarantaine, souvent les critiques disent que c'est l'album de la maturité. Et je me sentais pas du tout mature. Je me sentais débutante. Et c'est le premier disque que je composais moi-même. Là, pour le coup, vous avez accès à la réduction de mon champ lexical et musical.
Avec des chansons, alors effectivement d'ailleurs très singulières, moi j'ai peut-être tort, il y en a une qui me plaît beaucoup, j'ai envie d'écouter maintenant, qui s'appelle Michel et Michel.
Avec joie, moi j'aime beaucoup aussi.
Comment c'est fait ?
En gros, j'étais avec une personne dans un hôtel qui m'a dit qu'il était Michel Houellebecq. Et je lui dis non, absolument pas, Michel Houellebecq c'est moi. Et donc j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Michel et Michel. Voilà.
Sur le balcon face à la mer, une clope au bec de faussaire. Michel la triste, Michel la mère, joue à l'amour les yeux dans les yeux. Il n'y a rien à dire, chambre 47, elle baisse, elle rit. Quoi d'autre chérie? Quel ce merveilleux sentiment, ami, ami, Michel et Michel. Ami, ami, il n'y a pas d'amour ici-bas. Il n'y a pas d'amour, crois-moi. Michel arrive à un âge où on peut commencer à pleurer sur sa vie et compter les naufrages au nombre des bouches adorées. Michel avait le rire discret de celles qui ont trop espéré. Michel, oui Michel, tu sais, oui, non, rien, tais-toi, j'ai envie de danser. Ami, ami, Michel, Michel. Ami, ami, il n'y a pas d'amour ici-bas. Il n'y a pas d'amour, crois-moi. Elles écoutent Bob Dylan, MGMT. Fument un maximum de cigarettes, ivres d'alcool et de fumée. Ad nauseum, elles baissent enchantées. Écoute beauté, dit Michel, Michel. Ne parlons pas d'amour, baisons. Oui, répondit Michel, tu as raison. Ne disons rien de sérieux, buvons. Ami, ami, Michel et Michel. Ami, ami. Il n'y a pas d'amour ici-bas. Il n'y a pas d'amour, crois-moi. À nos amours mortes, de ne jamais nous aimer. Et surtout ne dis rien de sérieux, rien, rien qui ne puisse devenir un contentieux, rien que je puisse croire à part Dieu.
Michel et Michel, j'avais cru que c'était un trucage de vocodeur, ces deux voix doublées. Non, vous êtes en duo avec Anna Mouglalis, oui, qui fait la voix grave, et vous, oui, faites la voix aiguë. C'est très, très bien fait.
Ah, merci. Mais oui, Anna a une voix très étonnante. Elle est vraiment très en bas comme ça, et j'avais envie de sa voix.
Et tout ça sous la houlette, si on peut dire, de quelqu'un qui est vraiment votre complice musical depuis, depuis après Philippe Catherine, peut-être d'une certaine
façon.
Une
quinzaine d'années, ouais.
Philippe Evenot.
Philippe Evenot, voilà. Philippe Evenot que j'ai rencontré avec Monsieur Catherine, qui vient aussi de Nantes. C'est la bande des Nantais. Il y a beaucoup de jazzman là-bas.
Ouais.
Et donc Philippe est un guitariste de jazz et avec qui je joue donc tous les concerts depuis 15 ans. Et qui a réalisé le dernier album.
Et le prochain.
Et le prochain.
Que vous êtes en train de finir. Là.
Voilà, on est en mix et il devrait sortir au printemps, mars ou avril.
Ce sera une nouvelle facette d'Elena Noguera.
C'est un petit frère d'Azul. Azul qui était donc un album de bossa nova que j'ai fait avec Catherine May en brésilien. Et là, c'est un petit frère d'Azul. C'est une bossa nova, mais en français.
Ah voilà.
On comprend ce que je dis.
Mais avec des vrais rythmes de bossa nova et des vraies couleurs.
Avec des rythmes de bossa nova, mais c'est, oui, très, très 60s, vous verrez. Il y a parfois des petites références, un peu comme certaines chansons un peu drôles que chantait Bardot. Mm-hmm. Il y a de l'humour.
En tout cas, voilà, on l'attend pour le
c'est
mois
gentil,
de mars.
Merci.
Et puis, on va se quitter avec une autre chanson de votre donc dernier album, Année Zéro. J'ai choisi un duo avec Lio parce que c'est drôle. Finalement, c'est peut-être une impression fausse, mais on dirait que elle était quand même assez loin de vous parce que vous aviez peut-être besoin aussi de vous affirmer dans vos premières années. Et aujourd'hui, on vous voit plus proche d'elle, en tout cas dans votre activité de musicienne. Vous avez fait un duo ensemble, vous avez fait des interviews ensemble, etc. Vous êtes rapprochés ou...
En fait, non, on a toujours été proches. Mon rapport à elle est toujours le même. C'est comme je vous disais, c'est mon rapport au monde qui est différent. Et c'est vrai, quand vous débutez, que vous avez 18 ans et que vous êtes toujours amené à la sœur de Lio, vous avez une envie d'affirmation et donc il faut vous détaché de la personne qui brille et qui est le soleil, et il faut réussir à créer sa propre planète, si ce n'est un soleil, en tout cas un Uranus ou un Vénus puissant également. Et donc, quand votre planète est suffisamment stable, vous pouvez de nouveau commencer à vous tourner l'une autour de l'autre. Donc, les années ont passé, je suis une dame maintenant, j'aurai 50 ans bientôt, et c'est un âge respectable que pour se dire que si les gens continuent à vous appeler la sœur de Lio, c'est leur problème finalement, ça n'est plus le vôtre, vous avez fait le chemin. Et
un chemin finalement très très différent du sien. Donc,
mais en tout cas c'est un chemin, même s'il était identique, mais quand vous débutez, il n'y a qu'un postulat, il n'y a pas de chemin. Là, j'ai déjà un bout de chemin, on va dire.
Alors, on va vous retrouver toutes les deux dans cette chanson dont vous nous dites un mot.
Oui, alors j'avais trouvé un groupe sur Internet et je leur ai demandé des chansons et ils ont envoyé cette chanson, We Have No Choice, et c'est comme un duel au soleil. Et donc, on s'était dit avec ma sœur que c'était une très bonne idée de chanter ça. En fait, en gros, on dit, il y en a une de nous deux qui doit mourir.
Oh, bah,
et donc, ça nous faisait marrer de chanter ça et de se retrouver des années après.
Voilà.
Enfin, dans un duo qui serait un duel.
Et puis, c'est formidable pour ce groupe. Alors, vous allez chercher vos musiques par Internet, ça c'est
bah oui,
c'est original,
y a tous ces trucs, ces réseaux sociaux, ça peut être formidable, ça peut être atroce, mais comme aussi formidable, parce que ça fait des rencontres, on découvre des jeunes, on peut leur parler, ils peuvent vous envoyer des choses. La communication est beaucoup plus facile, ouais.
Voilà, alors en tout cas, on vous quitte avec cette chanson et puis on vous retrouve bien sûr à l'Olympia les 18 et 19 décembre, à la fin de la tournée, dont je redirai les dates dans un instant. Merci d'avoir été avec nous,
merci.
Elena Noguera.
Merci de m'avoir invité.
À bientôt pour votre nouvel album, peut-être.
Avec joie, merci.
On my way. meets the light, like the evening meets the night, like tomorrow found today. I will find you on my way. I think of it with no fear. One of us shall disappear. Any day, anyhow. How long will it take from now?
We have no choice, Lio en duo avec sa sœur Elena Noguera qui était ce matin mon invitée et que vous pourrez donc retrouver avec les Parisiennes à l'Olympia les 18 et 19 décembre, mais aussi tout prochainement, eh bien à Tours par exemple le 20 octobre et puis début novembre entre Lyon, Marseille, Roubaix et d'autres villes. Elena Noguera, donc, que j'avais le grand plaisir d'accueillir ce matin sur France Musique. Jo Priva avec Matelot Ferré et toute la bande de Manouche Party. C'était en 1966. Vous avez reconnu, évidemment, c'est le générique de notre émission, mais cette fois, on avait le morceau en entier.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et maintenant, j'ai envie de faire plaisir aux amoureux de la musique viennoise. Et je sais qu'ils sont très nombreux à écouter cette émission. Alors, j'ai choisi un duo langoureux, peut-être le plus langoureux de tous les duos que je connaisse. Surtout quand il est interprété par Annelise Rothenberger et Nicolas Guéda. Cet extrait de Comtesse Maritza, l'opérette d'Emery Kallmann.
Schönstes Kleid, so gegen 10, mein Liebchen, sei bereit. Ich warte auf dich im Dunkeln vor dem Tor. Heut hab ich mit dir was Besonderes vor.
Die Stund ist da, zum Schritt und bringt ein ganzes Herz voll Liebe mit.
Le merveilleux duo du deuxième acte de Comtesse Maritza, chantée ici par Annelise Rottenberger et Nicolas Guéda, un enregistrement de 1972 sous la direction de Willy Mathès. Voilà, On va rester avec la valse, le rythme de valse, mais plus la valse viennoise comme celle qu'on vient d'entendre maintenant. Ce sera une grande valse de concert russe qui va clore notre programme. Une de ces valses de concert composées par Glazounov. Celle-ci date de 1893 et c'est donc sa grande valse de concert numéro 2 en ré majeur sous la direction de Vladimir Fedoseyev.
Thank you.
La superbe valse de concert de Glazounov par l'orchestre de la radio de Moscou sous la direction de Vladimir Fedoseyev. Là, en fait, c'était la première et non pas la deuxième valse de concert. On l'écoutera une autre fois, qu'on vient d'entendre. Donc, cet opus 47 de Monsieur Glazounov. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteur préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique Alexandre Billard, François-David Buchen, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. J'aurai la grande joie d'accueillir Monsieur Maurice Pont, qui a été le parolier d'Henri Salvador et de quantité d'artistes de la chanson française. Rendez-vous samedi sur France Musique. D'ici là, vous avez rendez-vous maintenant avec Guitare Guitare de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.